Moi, j'ai envie de commencer de raconter un peu une histoire un peu qui introduira un petit peu ce livre. Et puis, je parlerai peut-être plus, de façon plus précise du livre dans quelques minutes. La magie du 45e parallèle, vous savez, pour ceux qui sont en géographie, qui ont encore besoin de bien savoir où nous sommes positionnés, Bordeaux est sur le 45e. Il est peut-être même un petit peu plus au nord de Bordeaux. Il passe du côté de Lacanau, je crois. Saint-André-de-Cubzac. Et ce 45e, de ce côté de l'Atlantique, bien sûr, il commence là. Et puis, il va jusqu'à Pékin, de l'autre côté. Donc, il y a une très large bande de terre. Hein, il y a toute l'Europe et l'Asie. Et puis, aux États-Unis, il commence côté est... côté ouest, du côté de Portland, en Oregon, donc au nord de la Californie, et il se termine sur le côté ouest, sur le côté est, pardon, du côté du Québec, du côté de Montréal. Donc là aussi, une très large bande de terre. Et en fait, donc le 45e, nord, parce qu'on parle du 45e nord, celui qui est au nord de l'équateur. Après, on va parler du 45e sud, mais le 45e nord, il a une très large bande de terre, que ce soit Europe et Asie ou États-Unis, Canada. Alors que le 45e sud, il est dans l'eau. Le 45e sud, il est au sud de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, la pointe extrême de l'Afrique du Sud, où les vignobles africains, sud-africains sont positionnés, sont donc plus éloignés du 45e. Donc le 45e est encore plus vers l'Antarctique. Après ça, au Chili, là, il touche le Chili, le bas du Chili. Et puis, l'autre terre qu'il aurait pu toucher, c'est l'Australie. Mais il ne touche pas l'Australie, il est au sud de l'Australie. Et il va donc croiser la Nouvelle-Zélande. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle du 45e, parce qu'on va parler du 45e nord, qui est très différent du 45e sud, parce que le 45e sud, il est dans l'eau. Le 45e nord, il a beaucoup de terre. Donc, les conditions ne sont pas exactement les mêmes sur le 45e nord que sur le 45e sud. Et le 45e sud, il y a l'Antarctique, et 80% des glaces du globe sont situées sur l'Antarctique. Donc... La partie sud du globe est beaucoup plus froide que la partie nord. Donc les conditions du 45e au sud ne sont pas les mêmes que les conditions du 45e au nord. Elles sont plus froides. Il y a beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'océans, beaucoup plus de mer, et donc beaucoup plus de vent. Ce qui est vrai sur le 45e nord, dont on reparlera tout à l'heure, est un petit peu moins vrai sur le 45e sud, et il faudrait remonter entre le 35e et le 40e, à une limite à définir, pour retrouver ces conditions du 45e, ces conditions d'équilibre du 45e, où on pourrait dire, sur le 45e nord, que tout ce qui est au... Le 45e, c'est une ligne de partage, une ligne de milieu, on est entre le 0 et le 90, et donc tout ce qui est au nord du 45e est froid, et tout ce qui est au sud du 45e est chaud, parce que le 45e, il est au milieu. Donc ça, on ne peut pas l'enlever à qui que ce soit. Le 45e, c'est une ligne de milieu. Et au nord, ça veut dire aussi qu'il fait plus froid, et que ça sera une deuxième partie, peut-être d'un livre qu'on écrira un jour, mais peut-être que les civilisations du nord ne sont pas tout à fait les mêmes que les civilisations du sud. Que les gens au nord du 45e sont un peu différents des gens du sud. Que les Norvégiens puissent être différents des Espagnols, on est en fait assez rapidement d'accord sur le sujet. Voilà. Mais quand on va prendre même dans les extrêmes, on va trouver des conditions climatiques qui vont faire que les peuples... les populations, les hommes, les femmes, sont assez différentes du nord au sud. Les habitudes alimentaires sont assez différentes au nord et au sud. Alain Dutournier, qui a écrit un très joli témoignage dans ce livre du 45e. Alain Dutournier, qui est un restaurateur étoilé parisien, mais qui est landais, écrit au nord du 45e, c'est le beurre, la cuisine est au beurre, et au sud du 45e, la cuisine est à l'huile. Voilà. Et c'est vrai que moi, ma famille, du côté de mon père, est plutôt du nord, et on avait l'habitude d'avoir du beurre sur la table, ce qu'on ne faisait pas à Bordeaux. Voilà, à Bordeaux, on n'a pas forcément du beurre sur la table, parce qu'on est presque un peu trop au sud pour avoir du beurre. Les conditions de conservation sur le 45e étaient presque un peu, pas très loin, hein, à la Charente, on va retrouver du beurre assez facilement. Voilà. Mais à Bordeaux, on commence à être un peu limité. Et puis dès qu'on descend un petit peu, alors un petit peu plus dans le sud de la France, on va parler de l'huile, bien sûr, dans le bassin méditerranéen. Mais Alain nous dit que dans les Landes, on utilise plutôt les graisses d'oie. Voilà, parce que finalement, le beurre ne se conserve pas tout à fait bien. L'huile, on n'est pas tout à fait suffisamment au sud. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut trouver des huiles d'olive n'importe où facilement. Mais moi, je me rappelle, il y a 30 ans, l'huile d'olive, on n'en avait pas aussi facilement qu'aujourd'hui, à Bordeaux. Hein ? Aujourd'hui, l'huile d'olive, c'est facile. Bon, mais voilà, donc le beurre est au nord, l'huile est au sud. Et peut-être que les cuisines sont différentes, peut-être que les mentalités sont aussi différentes, et peut-être qu'il y a quelques jolies lignes à écrire entre les gens du Nord et les gens du Sud. Sans excès, parce que politiquement, je ne suis pas sûr que ça devienne très correct après. Mais ceci dit, voilà, il y a des gens merveilleux au Nord comme au Sud, mais cette ligne du 45e, c'est une ligne de milieu, et peut-être que les gens du 45e ont un petit peu moins d'excès que les gens du Nord ou les gens du Sud. Peut-être qu'ils sont un petit peu plus, voilà, ni trop, ni pas assez. Voilà, peut-être. Enfin, moi, je le pense. Quand on voyage dans le monde, vous pouvez vous apercevoir que, voilà, quand vous montez dans des pays très nord, les mentalités sont différentes. Parce que l'hiver oblige les gens à vivre d'une certaine façon. Voilà, et quand on va dans le sud, les gens qui sont au bord de la mer, au bord de la Méditerranée, ou, vivent de façon différente. Et donc, je crois que les hommes ont appris à s'acclimater à leur région. Et donc, la notion de latitude, nord ou sud, va influencer les hommes et les femmes. Alors, je vais commencer à parler un petit peu de ce livre. Ce livre, il est né dans mon esprit, enfin en tout cas le 45e, avant que ça devienne un livre, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis longtemps, parce que Bordeaux est sur le 45e et que finalement, en arrivant dans le vin en 83 sur cette propriété, j'étais très jeune, 23 ans, et j'avais une passion du vin qui était déjà bien forte, et j'ai eu envie de voyager, parce que Bordeaux est une région magnifique, mais je crois que c'est bien d'aller voyager pour se rendre compte qu'on est encore mieux chez nous. Et donc, en voyageant, j'ai rencontré beaucoup de viticulteurs, j'ai voyagé dans beaucoup de vignobles, j'ai dégusté beaucoup de vins. Et puis, je me suis aperçu que finalement, au nord du 45e, la vigne était blanche. Et au sud du 45e, la vigne est rouge. Alors, au nord du 45e, Bordeaux, c'est le 45e. Au nord du 45e, la Loire, l'Alsace, la Champagne, le Chablis, l'Allemagne, l'Autriche, tout ça, c'est blanc. Alors, vous me direz, oui, il y a quelques rouges. Oui, il y a quelques rouges, ce sont les exceptions, parce qu'il y a toujours les exceptions pour confirmer la règle. Mais au nord du 45e, la vigne est blanche. Et si on fait des comptages, vous allez voir que plus on s'éloigne du 45e vers le nord, plus on va trouver des blancs, et les rouges auront de plus en plus de difficultés à s'exprimer en montant vers le nord, et donc c'est le royaume des blancs. Pourquoi c'est le royaume des blancs? Parce que les blancs ont besoin d'acidité, ont besoin de fraîcheur. Et donc les blancs, ils ont besoin de froid. Alors en montant un peu au nord du 45e, c'est le royaume des blancs. Et puis bien sûr, plus on va monter nord, jusqu'au 50e, parce que finalement, on va s'apercevoir qu'au nord du 50e, il n'y a plus grand-chose au niveau vignoble. Donc finalement, entre le 45 et le 50e, il n'y a que 5 degrés, c'est très faible, parce qu'on doit quand même monter jusqu'à 90, et donc il ne se passe pas grand-chose. C'est une petite bande assez étroite, entre 45 et 50, et qui est réservée aux Blancs. Et donc, au sud, les choses sont un petit peu plus compliquées, parce qu'au sud, la latitude sud peut être compensée par l'altitude. Donc, si on va en Espagne, par exemple, il y a des grands vignobles extraordinaires dans la vallée du Douro, mais également, côté espagnol, un petit peu plus au nord, un petit peu plus à l'est, et notamment, il y a un grand vin espagnol qui s'appelle Vega Sicilia, et ce Vega Sicilia qui fait des très grands vins depuis des dizaines d'années, il est situé à 800 mètres d'altitude. Et son altitude compense la latitude sud. Et je connais des vignobles en Argentine qui vont jusqu'à 1800 mètres d'altitude pour compenser le fait qu'ils soient trop au sud. Et quand je reprends l'exemple de Vega Sicilia, il gèle plus de 100 jours par an à Vega Sicilia. Alors que si vous allez dans la plaine à côté, bien sûr qu'il n'y a plus de gelée. Donc la latitude sud est compensée par l'altitude. Alors je fais un petit... je vais quand même vous expliquer ça sur la carte. Mais donc vous avez cette carte d'Europe, vous avez donc le 45e, au nord le 50e, et au sud, des vignes au nord du 50e, il n'y en a plus beaucoup. Et au sud du 40e, il y a de moins en moins de vignobles, sauf si on arrive à compenser la latitude trop sud par l'altitude. Ce que je dis dans cette magie du 45e, c'est la latitude idéale des grands vins du monde. Donc, on peut faire tous ces vignobles produisent du vin. Voilà. Est-ce qu'ils produisent tous des grands vins? J'en suis pas tout à fait sûr. Et globalement, quand on regarde, bien sûr que le 45e, c'est une ligne de milieu, c'est une ligne de partage qui est là, et la Bourgogne qui est là, bien sûr qu'elle est assimilée au 45e. Et le Rhône qui est là, bien sûr que c'est assimilé au 45e. Mais en Bourgogne, quand on va un petit peu plus au nord de la Bourgogne, la vigne, elle n'est plus rouge. Chablis, ça devient tout blanc. Donc, dans le nord de la Bourgogne, on a du mal à faire mûrir les rouges. Et puis, quand on va commencer à planter quelques rouges, il y a quelques rouges en Allemagne, voire en Autriche, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, les grandes années dans ces vignobles un petit peu trop au nord, il faut des années chaudes. Parce que là aussi, vous savez comme moi qu'on peut avoir des étés chauds, des étés frais. Donc, dans les étés chauds, on va gagner en maturité, alors que dans les étés frais, on va perdre en maturité. Donc, globalement, tout ce qui est au nord du 45e a le pied sur l'accélérateur de la maturité. On a besoin de soleil. Et une bonne année ici, c'est une année chaude. Une bonne année ici, c'est plutôt une année froide. Parce qu'on a le pied sur l'accélérateur dans le nord, on a le pied sur le frein sur le sud. Donc si on a le pied sur l'accélérateur sur le nord, ça veut dire qu'un joli vignoble en Alsace, c'est un vignoble qui est exposé plein sud. Et vous savez comme moi que le soleil est plus fort sur une inclinaison à 45 degrés qu'à plat. Donc les plus jolis coteaux en Alsace, c'est ceux qui sont à 45 degrés face au soleil, bien sud, pour profiter largement du soleil et pour compenser le fait qu'il soit un peu trop au nord. Et globalement, les vignobles, bien sûr, du nord sont des vignobles de blanc. L'Angleterre est en train de planter quelques vignobles ici. Il n'y a pas 50 000 solutions pour les Anglais. Ils ne font pas de rouge dans les 200 prochaines années, je peux vous garantir. Donc on va faire du blanc. Et même le blanc est un peu compliqué en Angleterre, donc on y fait plutôt des méthodes champenoises. Parce que les méthodes champenoises, on peut faire du bon champagne, excusez-moi, méthode champenoise, avec des vins qui font 10 degrés. Parce qu'on va leur ajouter des liqueurs qui vont faire fermenter les vins, et donc on va avoir des équipes qui sont bons. Pourquoi les champenois font du champagne? C'est peut-être parce qu'ils sont un peu trop au nord. S'ils étaient un petit peu plus au sud, ils feraient du Chablis, voire même du Bourgogne. Mais si on fait du champagne, c'est justement parce qu'on est un peu trop au nord et que c'est une solution qui permet de gérer le fait qu'on soit un peu trop au nord et d'exprimer, malgré tout, une grande qualité de terroir et de cépage. Donc, au nord, la vigne est blanche. Et puis, Ici, on a plutôt à Bordeaux, vous savez qu'à Bordeaux, jusqu'en 1975, on avait plus de vignes blanches que de vignes rouges. Hein, Bordeaux, aujourd'hui, est 88% rouge, mais jusqu'en 1975, 75, c'est l'année de l'équilibre, 50-50, mais en 1960, il y a 60% de blanc et 40% de rouge. Donc le vignoble au 19e, il est beaucoup plus blanc que rouge. Et c'est en fait le réchauffement climatique, parce qu'il va falloir parler un peu du réchauffement climatique, qui fait que ces dernières décennies, on a pu commencer à planter du rouge à Bordeaux. Parce qu'avant, dans les vignobles d'Entre-deux-Mers, on était un peu condamnés à y planter du blanc, parce qu'on était trop au nord, on n'avait pas suffisamment de maturité. Et donc, on y plantait du blanc. Aujourd'hui, 88% de rouge, et Bordeaux est encore situé sur le 45e, donc on est sur une limite nord de production de vin rouge et une limite sud de production de vin blanc. Donc une grande année à Bordeaux, c'est une année chaude pour les rouges. Donc les 28, les 29, les 45, les 59, les 61, les 82, les 89, les 90, les 2000, les 2005, les 2009 sont des années chaudes. C'est quoi la définition d'un grand terroir à Bordeaux? C'est un terroir chaud. Pourquoi Aubryon est grand? Parce qu'il est dans la ville, et sur des terres chaudes. Pourquoi des vignobles sont moins cotés à Bordeaux? C'est parce qu'ils sont froids. Et donc, sur les vignobles chauds, on va pouvoir y planter des Cabernet Sauvignon, qui est un cépage chaud. Sur les vignobles un petit peu plus frais, le Cabernet Sauvignon, il n'arrive pas à maturité. Donc, on va y planter des Merlots. Et c'est pour ça que vous avez une grande majorité de Merlots aujourd'hui dans le vignoble bordelais. Même si les plus grands terroirs, sur la rive gauche en tout cas, parce que si les Saint-Émilionnais m'entendaient, ils ne seraient pas contents, mais sur la rive gauche, sur Médoc et Graves, les grands terroirs sont des terroirs de Graves qui portent le Cabernet Sauvignon jusqu'à maturité. Parce que le Cabernet Sauvignon, ben on est un peu trop au nord pour le Cabernet Sauvignon, donc on a besoin de terroirs chauds et d'années chaudes. Et la vigne, sur ces terroirs, est plantée à très forte densité. Chez nous, au domaine de Chevalier, on est planté à 10 000 pieds par hectare. Parce qu'à 10 000 pieds par hectare, une vigne a plus de chances d'arriver à maturité qu'à 5 000 ou à 3 000. Donc les grands vignobles de Bordeaux, de Cabernet Sauvignon, sur la rive gauche, sont tous plantés à 10 000 pieds par hectare. Sur la rive droite, à Saint-Émilion et à Pomerol, on a beaucoup plus de Merlot. Et le Merlot est beaucoup plus à l'aise sur les argiles au calcaire. Et il arrive à une maturité suffisante sur ces terroirs. Mais si on est planté sur ces argiles Cabernet Sauvignon, il n'arriverait jamais à maturité, ou très peu, souvent à maturité. Avec le réchauffement climatique que l'on voit depuis une vingtaine d'années et que l'on va continuer à voir, on va sans doute voir un peu plus de Cabernet Franc, qui est un cépage plus tardif, et un peu plus de Cabernet Sauvignon arriver du côté de Saint-Émilion et Pomerol. Parce que les Merlots sont un peu en limite de surmaturité sur ces terroirs de Saint-Émilion et Pomerol. Mais donc, plus on monte vers le nord, plus il faudra planter des cépages précoces. Parce que plus on monte vers le nord, plus il fait froid. Et plus il fait froid, ben plus il faut planter des cépages qui arrivent vite à maturité. Et plus on va vers le sud, donc plus on monte vers le nord, le cépage qui arrive le plus rapidement à maturité, c'est le Riesling. Donc plus on va vers le nord, plus on va trouver des Riesling. Là, on va pouvoir se permettre d'avoir des Sauvignons. Mais les Sauvignons dans le Bordelais, ils arrivent plus rapidement à maturité que les Sauvignons sur la Loire, parce qu'on est un petit peu plus au sud. Voilà. Et puis au sud du 45e, il n'y a pratiquement plus de blancs, sauf il y a quelques exceptions, bien sûr. Vous allez me dire, dans le sud de la France, il y a un petit peu de blancs, mais globalement, ces vins, on les fait avec des cépages qui sont assez tardifs, et notamment dans la région de Châteauneuf-du-Pape, où ici, on a des cépages qui sont très tardifs. Et en Espagne, ce vignoble, il n'est pratiquement que rouge. Vous allez me dire, oui, il y a quelques vins blancs en Espagne, mais qui sont des exceptions qui confirment la règle. L'Espagne, elle est 90% rouge. Donc, plus on va descendre vers le sud, plus il va falloir avoir des cépages tardifs. Et vers le sud, on va aussi avoir on va essayer de retarder la maturité. On a le pied sur le frein. Donc, retarder la maturité, ça veut dire monter la vigne en hauteur, au niveau de son palissage. Donc au lieu d'avoir 10 000 pieds hectares, comme dans le nord de la France et comme dans les grands vignobles de Bordeaux, eh bien on va avoir des 2 500, 3 000 pieds par hectare pour compenser le fait qu'on soit un peu trop au sud, parce qu'une vigne haute et à forte densité arrivera plus doucement à maturité. Donc comme on a le pied sur le frein de la maturité dans le sud, on va chercher toutes les conditions. Un grand terroir dans le sud n'est pas un terroir exposé sud, parce qu'il a trop de soleil. Donc un grand terroir au sud, il est plutôt exposé nord, nord-est, nord-ouest, mais pas sud. Voilà. Et puis on va compenser, comme je vous disais tout à l'heure, le fait dans le sud. C'est pour ça que au nord du 50e, ben, il n'y a plus grand-chose comme vignoble. Au sud du 45e, il y a encore des vignobles, parce que l'on compense dans le sud le fait que l'on soit trop au sud par de l'altitude. Hein, et je peux vous dire que voilà, sur Vega Sicilia, qui est par ici, lui, il compense le fait qu'il est 3 ou 4 degrés trop au sud par le fait qu'il soit à 800 mètres en altitude. Donc 800 mètres d'altitude compense à peu près 3 degrés de sud. C'est à peu près ce que j'ai pu vérifier sur un certain nombre de vignobles. On pourrait le voir également, Sassicaia, qui est en Italie, qui doit se trouver par là, et est également en altitude entre 5 et 600 mètres. Donc dans le sud, l'altitude compense la latitude. Voilà, alors si on allait plus loin en zoomant cette carte, enfin en dézoomant cette carte vers l'Asie, on verrait que, bien sûr, la vigne, elle est née vers la Grèce, elle est née vers l'Italie, et elle est née dans les régions qui sont plus faciles, parce que, entre guillemets, c'est plus facile de planter des vignes au sud, parce qu'on a la garantie du soleil. Donc on va faire des vins qui sont assez généreux. Et puis, plus on a avancé dans le temps, génération après génération, siècle après siècle, on a fait remonter la vigne au nord. Et on s'est aperçu qu'en remontant au nord, on allait faire des vins qui étaient plus élégants, plus fins, plus complexes. Ici, en Bourgogne, à Bordeaux, la classification date de 1855, mais déjà les premières classifications du Médoc datent du 18e, donc un siècle avant celle de 1855 qui a été demandée par Napoléon III pour l'exposition universelle de Paris. Mais en Bourgogne, les premières classifications de terroirs apparaissent dès le XVIe siècle. Et donc, on sait déjà, c'est souvent les moines, les religieux, qui savent reconnaître un grand terroir et qui vont commencer à classer des sols à la parcelle près. Et finalement, ces sols qui sont classés à la parcelle près, c'est autour du 45e que l'on arrive à une classification très fine. Parce que, je ne vais pas être méchant trop longtemps, mais dans des vignobles plus au sud, de la Mancha ou autre, vous pouvez avoir des vignobles très importants au niveau quantité, mais au niveau de la précision de qualité, on n'est pas au même niveau, au même degré de sophistication que l'homme a apporté sur cette bande autour du 45e. Parce que l'homme s'est aperçu, génération après génération, que c'est autour de ce 45e que l'on faisait des vins d'une plus grande définition. Pourquoi ? Parce que donc le 45e, il est entre le 0 et le 90, et l'amplitude de température est plus forte sur le 45e que sur le 50e ou sur le 40e. Les étés se ressemblent plus sur le 40e que sur le 45e. Les hivers se ressemblent plus sur le 50e que sur le 45e. Le 45e, il est au milieu de tout ça, et donc c'est lui qui subit, entre guillemets, les écarts les plus importants. Et donc au mois de juillet, à Bordeaux, vous savez qu'il peut faire 10 degrés le matin ou 35 degrés après-midi. Voilà, et on a des amplitudes thermiques qui sont très importantes. Et c'est ça ce sont ces amplitudes qui vont donner un plus grand écart entre les millésimes. Et finalement, les millésimes sont beaucoup plus différents sur le 45 qu'ils ne sont sur le 50e ou sur le 40e. parce que les météos sont plus changeantes sur le 45e. Elles sont moins extrêmes. Plus on va vers le nord, plus les météos vont être extrêmes. Plus on va vers le sud, plus elles vont être extrêmes. Donc au 45e, on a une météo qui n'est ni trop froide, ni trop chaude, mais qui connaît des amplitudes importantes. Et c'est pour ça que la vigne se plaît bien, là, parce qu'elle est sur une ligne d'équilibre. Mais c'est plus facile de faire des vins rouges là que de faire des vins rouges là. Parce que c'est plus facile de faire des vins rouges sur le 40e que de faire des vins rouges sur le 45e. Parce qu'on a une garantie de soleil ici, sur le 40e, alors que sur le 45e, la garantie de soleil n'est pas toujours là. Et les grands vins de Bordeaux, comme les grands vins de Bourgogne, comme les grands vins des Rhônes-Nord, j'ai envie de vous parler de Côte-Rôti, d'Hermitage, de Condrieu, qui sont là, sont des très grands vins parce que justement, ils sont sur cette ligne de partage où on fait justement des vins très sophistiqués, très complexes, très élégants, et où on arrive finalement à avoir des maturités qui sont longues. Quand on est trop au sud, on est obligé de ramasser des raisins tôt, parce que le sucre est là et la maturité est là, forte, très vite. Alors que sur le 45e, on va pouvoir attendre. Et à Bordeaux, les très grands millésimes de Bordeaux, c'est jamais ceux qu'on ramasse au mois d'août. C'est ceux qu'on va ramasser au mois de septembre, peut-être même au mois d'octobre. Parce que ce sont les belles arrière-saisons qui affinent. Vous savez que les rouges sont faits par les tanins. Quand on déguste un verre de vin rouge, moi je dis que, même si je ne l'ai pas beaucoup vu et lu, quand vous dégustez un verre de vin rouge, 60-70% des impressions gustatives de votre dégustation du rouge, d'un verre de vin rouge, provient des tanins. La quantité du tanin et la qualité du tanin. Et ces tanins proviennent principalement des peaux, un petit peu des pépins, mais ce sont les peaux des raisins rouges qui vont donner la qualité d'un grand vin rouge. C'est quoi la différence entre un grand vin et un petit vin ou un bon vin? C'est une question de peau. C'est une question de qualité de peau. C'est quoi la différence entre un grand terroir et un terroir plus moyen? C'est une question de qualité de peau. Et donc, quand les viticulteurs vont dans leur vigne goûter les raisins la veille des vendanges, ils vont prendre quelques graines dans la bouche, ils vont cracher les jus, ils vont goûter les peaux et un peu les pépins. Et c'est dans la qualité des peaux qu'ils vont définir si ce raisin est prêt à être vendangé. Et en fait, beaucoup de gens regardent les analyses qui sont données par un laboratoire et disent « oui, cette parcelle, elle est prête à être vendangée ». Non, le meilleur laboratoire, c'est notre palais, à nous viticulteurs, pour aller vérifier que l'information donnée par le labo est bonne. Et c'est vraiment à la dégustation que l'on va dire qu'un raisin est de bonne qualité ou pas, être prêt à être vendangé ou pas dans les vins rouges. Et donc dans les vins rouges, c'est vraiment les peaux et les pépins qui vont juger de ça. Alors que dans les blancs, on est dans un autre monde. Dans les blancs, je vais goûter quelques raisins blancs, je vais cracher les jus, je vais cracher les peaux et je vais goûter les jus. Parce que ce sont les jus qui donnent la qualité d'un raisin blanc. Et donc la qualité d'un vin blanc. Même si les peaux sont importantes, c'est vraiment la qualité des jus qui est primordiale. Donc, c'est deux mondes extrêmement différents, le monde des blancs, le monde du nord, le monde de l'acidité, le monde de la nuit. J'ai envie de vous dire que les blancs sont des vins de lune. La lune est extrêmement importante sur les vins blancs parce qu'elle apporte la fraîcheur, la définition, l'élégance. Le vin rouge, plus au sud, est fait par les peaux. Et les peaux ont besoin de soleil, donc les raisins rouges sont plutôt des raisins de soleil. Et quand on parle d'une dégustation dans les vins rouges et dans les vins blancs, on va utiliser des termes très différents pour des rouges et pour des blancs. Et pour les viticulteurs qui ont la chance de faire des rouges et des blancs, ils savent qu'ils vivent dans deux mondes très différents. Ce n'est pas le monde des blancs, hop, qui passe au monde des rouges, et qui est le... Non, c'est deux mondes extrêmement différents où l'expression du fruit va être extrêmement différente parce que les rouges ont une chance énorme, ils ont les tanins qui peuvent masquer les imperfections du jus des rouges, alors que les blancs, les pressoirs, les peaux restent dans les pressoirs et seulement les jus vont vraiment définir la qualité des blancs. Donc le monde des blancs et le monde des rouges sont deux mondes très différents. Et à la dégustation, vous vous en rendez bien compte. Quand vous goûtez un verre de blanc, Vous êtes plus sur la légèreté, vous êtes plus sur l'élégance, sur la complexité, sur le fruit, sur la longueur en bouche, sur la fraîcheur, sur l'élégance, bien sûr. Et puis dans les rouges, vous allez peut-être parler un petit peu plus de puissance, de soleil, de vins qui vont vous envoûter, qui sont peut-être plus, un peu plus sur la puissance que sur l'élégance. Même si ces deux termes, pour moi, doivent être bien mariés et que l'un ne doit pas marquer l'autre. Donc le monde du rouge est un monde du sud, un monde de soleil, le monde du blanc est un monde du nord, un monde de fraîcheur. Et voilà, alors comment, pourquoi je suis arrivé là? Parce que finalement, très peu de gens ont écrit sur ce 45e, et notamment dans les vins. En vivant à Bordeaux depuis 30 ans, enfin en étant dans le vin depuis 30 ans, j'ai parcouru ces vignobles du nord au sud, et puis j'ai compris que plus on s'en allait vers le sud, plus on avait des vins un petit peu lourds, plus on allait vers le nord. Egon Müller, qui est par là, en Allemagne, raconte dans ce livre, parce que c'est un de nos 26 grands témoins, que son père, dans les années 50, s'arrachait les cheveux et qui faisait 2 bonnes années sur 10 parce qu'il était trop au nord. Voilà. Aujourd'hui, il a appris à mieux gérer le fait qu'il soit un peu trop au nord. Et puis, il y a eu du réchauffement climatique. Et puis, peut-être qu'il a affiné ses cépages. Peut-être qu'il a affiné sa façon de planter la vigne. Peut-être qu'il y a certaines parcelles qu'il a arrachées et qu'il n'a jamais replantées. Donc, le temps permet d'affiner les choses. Je connais des vignobles qui sont en train d'être plantés en Chine, et je peux vous dire que c'est une première génération de vignobles, et il ne faut pas s'imaginer que ces vignobles chinois vont donner des grands vins demain matin, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans. Il faudra 2, 3 générations de viticulteurs, de vignobles, pour arriver à affiner les choix. Je connais des vignobles dans le monde encore, où on y plante du Riesling et la Syrah, à quelques kilomètres près. Il faut choisir. La Syrah, c'est le sud, le Riesling, c'est le nord. Ouais, on ne plante pas dans la même région du Riesling et de la Syrah. Et ces vignobles, ils sont encore trop nouveaux. Et dans le temps, les gens vont affiner leur choix. Mais quand on plante une vigne, ce n'est pas comme du blé où on récolte l'année d'après et puis on replante. La vigne, elle est là, elle peut être là pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc quand on fait des choix, il faut faire des bons choix. Et sur les orientations, quand on est un petit peu trop au sud, il va falloir se cacher du soleil. Quand on est un peu trop au nord, il va falloir s'ouvrir au soleil. Donc les choix doivent être bien médités. Et il faudra souvent inscrire ça dans le temps. Et donc ce 45e, il est né dans ma tête assez tôt. Et je parle souvent en recevant mes visiteurs au domaine de Chevalier de ce 45e avec les gens qui sont un peu trop au nord, avec les gens qui sont un petit peu trop au sud. J'ai commencé à raconter une histoire autour de ce 45e, et puis je l'ai affiné avec le temps. Et puis un jour, j'ai rencontré Thierry Dussard, que je connais depuis longtemps, et à qui je racontais mes histoires du 45e, parce que j'ennuie toujours tout le monde avec mes histoires du 45e. Et il m'a dit, mais ça m'intéresserait, parce que moi, je n'ai jamais le temps d'écrire un livre. Voilà. Donc il m'a dit, je vais le faire avec toi. Et donc, on a passé depuis 2 ans, parce que moi, il faut que j'inscrive les choses dans le temps, j'ai besoin de réflexion. Et depuis 2 ans, je travaille avec Thierry sur ce livre. Ce livre, je lui ai raconté des histoires, comme je vous les raconte à vous, mais je suis rentré dans beaucoup de détails qui sont décrits dans ce livre, parce que là, je vous ai un peu tracé les grandes lignes, mais après ça, il y a tous ces détails qui sont derrière, et justement, la grande force de ces grands terroirs du 45e, c'est qu'ils sont pleins de détails. Et quelquefois, nous, Français, on se plaint. Tiens, il y a Bordeaux, il y a 57 appellations, il y a 4 ou 5 classifications, il y a 10 000 châteaux, avec des petits châteaux, des grands. Mais finalement, c'est ça la force de notre monde. Et je peux vous dire que dans bien des régions du monde, nous qui cherchons à simplifier nos histoires, dans plein de régions du monde, on cherche à les complexifier. Parce que dans plein de régions du monde, la vigne, elle est relativement simple. On a une diversité extraordinaire. Et on a perdu de la diversité. Parce qu'on sait, aujourd'hui à Bordeaux, on a des cabernets sauvignons, on a des merlots, des cabernets francs, mais je ne sais plus qui est-ce qui me disait qu'en 1855, au moment de cette classification, le Malbec est le cépage roi à Bordeaux. Et il y avait sans doute de la Syrah. Alors, sur les terroirs très chauds, hein. Et peut-être aussi, dans les Syrah, il y avait aussi différents Syrah. Hein, la Syrah du nord du Côte-du-Rhône n'est pas tout à fait la même que celle qu'on utilise en Australie. Donc, il y a eu des acclimatations, il y a eu des évolutions. Même l'homme a travaillé sur ses plants pour être encore plus en phase avec la latitude et le terroir sur lequel il se trouvait. Et il y a eu un travail formidable qui était commencé souvent par des religieux et puis qui a été continué par les hommes. Voilà. Alors, en écrivant ce livre avec Thierry, j'avais envie de faire parler un certain nombre de personnes sur ce 45e. Et ce 45e, il n'est ni trop au nord, ni trop au sud. Donc, j'avais envie d'avoir des gens qui me parlent de la vie ou de leur expérience, comme j'aime entendre parler les hommes et les femmes. Et vous savez comme moi qu'il y a toujours des gens qui parlent fort ou des gens qui parlent pas assez fort, d'ailleurs. Et j'ai essayé de réunir dans ce livre des gens que j'aime, des gens qui ont traversé ma vie depuis 30 ans, et avec qui j'ai partagé des bonnes bouteilles, des jolis moments, et quelquefois des moments courts, mais des moments souvent forts. Et donc, ce livre, c'est aussi la magie du 45e, l'attitude idéale des grands vins du monde. C'est quoi un grand vin? Depuis 20 ou 30 ans, une nouvelle génération de gourous ou quelquefois d'amateurs de vin du monde entier, pas seulement des Français, des Anglais. Finalement, des gens qui n'ont pas ce recul sur ces grands vins ont essayé de nous expliquer que « big is beautiful ». Donc, pour que ce soit beau, il faut que ce soit pas seulement grand. Parce que big, c'est pas seulement grand, c'est aussi gros. Et donc, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas la musique, quand on commence à écouter ses premières notes de musique, je pense qu'on préfère boum boum à la délicatesse d'une étude. Et je pense que quand on commence à regarder des premiers tableaux, on est aussi impressionné quand on n'y connaît pas grand-chose, quand on débute, on est impressionné par des couleurs, par des expressions, par des choses qui sont fortes. Et dans la musique, voilà, et moi, je suis amateur de voitures, et c'est vrai que quand on est un peu gamin, on aime les voitures qui sont un peu boum-boum, au bling-bling. Voilà. Et finalement, dans les vins, quand on n'y connaît pas grand-chose, au départ, on aime bien le bling-bling, ou le boum-boum. Voilà. Et depuis 20-30 ans, il y a pas mal de gens qui nous ont expliqué que finalement, ces vins qui étaient... Voilà, l'équilibre, il est là. Il est au milieu. Et quand on va un petit peu plus loin, on est déjà un peu trop loin. Mais il faut aller suffisamment loin. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Donc l'équilibre, il est au milieu. Et depuis quelques années, ceux qui sont allés un peu plus loin, dans les méthodes d'extraction, de degrés alcooliques, de surboisage, finalement, ces gens, ils ont été assez bien payés par un certain public. Donc ils ont continué. Et depuis un certain nombre de décennies, on a vu plein de gens à Bordeaux, même à Bordeaux, faire du plus-plus. Parce que plus-plus, c'était bien payé. Je ne vous dirai pas par qui. Mais alors que je crois que les grands vins, si vous aimez les grands vins, vous aimez la Bourgogne. Et si vous aimez la Bourgogne, vous aimez le Pinot Noir. Et le Pinot Noir, c'est pas un cépage bling-bling. C'est un cépage qui est d'une grande précision. Et quand on aime les grands Pinots Noirs, tout ce qu'il y a de trop devient vite exubérant. Et voilà, le Pinot Noir ne supporte pas le trop. Alors que finalement, le Cabernet, il s'en acclimate. Ou le Merlot, ça lui va bien, pour certains. Mais pourtant, il y a une grande précision sur la maturité des cabernets, sur la maturité des merlots et sur, finalement, l'expression d'un vin. Et vous savez que ces vignes vont plonger leurs racines sur 5, 10, 15, 20 mètres de profondeur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion un jour d'avoir une fosse ouverte pour différentes raisons, sur 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Vous pouvez aller voir des gravières, par exemple, et vous pouvez voir des ouvertures de terre sur plusieurs mètres de profondeur. Et vous pouvez voir quelle est la diversité de ces terroirs en profondeur. Et quand on imagine que les racines s'enfoncent année après année dans ces terres qui sont ni trop ni pas assez, eh bien, elles reflètent, elles révèlent dans leurs fruits, ces vignes, à travers leurs racines, les complexités des terroirs. Et les grands terroirs sont ceux qui sont bons, bien sûr, en surface, mais en surface, on s'en fiche, c'est ceux qui sont bons en profondeur. Et c'est ceux qui vont, par leur complexité, par leur diversité, vont apporter, vont révéler aux fruits cette diversité. Et quand on fait tout ce qu'il faut, mais rien de trop, mais tout ce qu'il faut, alors on peut donner une chance aux fruits de s'exprimer. Mais quand on commence à faire quelque chose de trop, alors vite, on va vite masquer, parce que la nature, elle est fragile, elle est subtile, elle est complexe, c'est comme une fleur. Et donc, on peut vite casser les choses, on peut vite casser le joujou. Et donc, avec des désherbants, des machines à vendanger mal réglées, des travaux sur des vignes qui sont où on en fait trop, ou pas assez, eh bien on va masquer cette expression du terroir. Et les grands vins, c'est justement cette expression précise des terroirs. Et quand on monte un peu trop au nord du 45e, eh bien la maturité n'est pas tout à fait suffisante pour arriver pile à l'équilibre. Et quand on descend un petit peu trop au sud, eh bien la maturité, elle est trop avancée, elle est trop chaude. Donc elle manque de cette élégance, elle manque de cette fraîcheur. Et je connais beaucoup de gens dans le sud qui vendangent par obligation. Obligation, c'est-à-dire que les sucres sont trop hauts, alors on vendange. Alors que nous, le Cabernet Sauvignon, je ne l'ai pas encore vu en 30 ans. Et on ne m'a jamais parlé avant d'un Cabernet Sauvignon qui était trop haut. Peut-être en 47. J'ai entendu qu'il y avait des cuves qui étaient un peu trop hautes en degrés. Mais voilà, ça arrive exceptionnellement. Peut-être qu'avec les réchauffements climatiques, on va voir un petit peu plus de ces années trop chaudes, comme 2003. Voilà, 2003, c'est une année trop chaude. Mais là aussi, on ne va pas parler du 45e en parlant de 2003. 2003, c'est un excès. C'est un accident sur le 45e. Voilà, j'ai envie de vous parler qu'à l'inverse, que 2013, c'est l'inverse, c'est plutôt pas assez. Parce qu'il a fait froid, il y a eu trop de pluie, on a eu un très bel été, et puis une arrière-saison correcte, mais sans plus. Donc 2013 est une année compliquée, dans les années froides. 2003 était une année compliquée, dans les années chaudes. Mais justement, le 45e, il est capable d'être dû un peu trop froid ou à un peu trop chaud. Mais globalement, il est dans le milieu. Voilà. Merci.